La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne, c'est l'édition d'aujourd'hui. On est avec les gens de l'Institut Jean Garon. On a Simon Bégin qui est avec nous et Guy de Bailleul. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Michel.
Bonjour, Michel.
Et évidemment, j'ai ma co-animatrice Izzy Lévesque en studio. Bonjour, Izzy.
Oui, toujours bonjour, fidèle bonjour. Au poste.
Oui. On va parler de culture aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler de la culture du blé? Est-ce qu'on va parler de la culture de l'orge?
Ah oui, hein, c'est ça.
Quel type de culture?
On va parler de l'autre culture. Ben, parce qu'il y a une occasion très spéciale, c'est qu'en fin de semaine dernière, Michel, c'était les Journées de la culture à travers le Québec. Écoutez, c'est vraiment impressionnant d'aller voir le site des Journées de la culture. Ce sont des centaines d'événements de tout genre. Ça peut être évidemment un artiste qui ouvre son atelier de peinture. Ça peut être une initiation à la sculpture, à la poterie, des conférences de tout genre. Il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas seulement à Montréal, pas seulement à Québec, pas seulement dans les grandes villes, mais c'est vraiment partout, dans tous les milieux, dans toutes les campagnes. Le nombre de villages qui ont eu l'idée de créer un événement culturel pour donner de la vie au village est quand même incroyable. Ça nous amène à poser la question suivante. Est-ce que la culture peut être un outil de développement économique de la ruralité? Quand on pense au milieu rural, on pense surtout à l'extraction des ressources, la forêt, les mines, l'agriculture, la pêche. Mais ça ne vient pas naturellement de penser à la culture comme une source de développement économique. Et pourtant, c'est de plus en plus vrai. Les exemples d'événements culturels de haut niveau à travers le Québec se multiplient. Souvent, c'est un artiste professionnel de la ville qui décide, pour toutes sortes de bonnes raisons, d'aller s'installer à la campagne et qui va lancer une initiative, va lancer un événement. Mais c'est aussi souvent des ruraux eux-mêmes qui ont l'idée de créer quelque chose. Puis Guy, je pense que tu peux nous en parler. Il y a quand même une association d'artistes ruraux qui existe.
Oui, enfin, une association, non, en particulier une association d'écrivains, qui sont des écrivains qu'on appelle les écrivains paysans. C'est quelque chose qui était né en France et puis qui a essaimé aussi au Québec. C'est-à-dire, en fait, une culture produite par les gens de la ruralité. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, Simon, au début, la culture, on a l'impression que, on aurait l'impression que le milieu rural, c'est le milieu de l'agriculture et la ville, c'est le milieu de la culture. Et que, et c'est loin d'être la réalité. Non seulement, parce que, comme on le soulignait, il y a des artistes de la ville qui viennent s'installer en milieu rural et qui, de ce fait, déplacent un peu l'attrait de leur activité en zone rurale, mais il existe une culture proprement rurale qu'on a souvent négligée par le passé, parce que, en fait, il y avait des jugements de valeur qui considéraient que c'est la vraie culture, elle venait de la ville.
Oui.
Avant qu'on reconnaisse la contribution des zones rurales à la culture avec un grand C. Est-ce que ça peut être un facteur de développement, on pourrait dire de développement économique? Je pense que ça l'est.
Oui. Ben, écoutez, au Québec, si on parle d'un artiste issu du milieu rural qui a fait une grande différence, on n'a qu'à penser à Fred Pellerin avec son village d'Élie Claston. C'est un gars de la place, puis il a décidé de mettre son village sur la map, comme on dit. Au point de vue économique, au point de vue développement de la communauté, c'est très...
Mais on n'a pas besoin d'aller tellement loin. Là. Si on enlève toutes les activités culturelles qu'il y a dans Charlevoix, à toute fin pratique, qu'est-ce qui reste de Charlevoix? Oui, il y a son milieu rural, il y a ses agriculteurs, sa contribution. On pense à la fromagerie, on pense à beaucoup de choses au niveau agriculture dans Charlevoix. Mais un de ses développements de moteur, son développement économique passe beaucoup par le moteur de ses activités culturelles à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie qui ont lieu à l'année. On enlève ça de Charlevoix, puis
effectivement,
c'est un autre endroit. Là.
C'est bien démontré que dans l'attractivité d'une ville, c'est souvent les artistes qui la créent. Quand il y a une concentration d'artistes, d'événements culturels, ben ça attire le monde, ça crée un esprit, ça crée un dynamisme. C'est vrai en ville, mais c'est aussi vrai dans les villages. L'exemple que tu as donné de Baie-Saint-Paul est excellent, mais ça se multiplie présentement au Québec.
Il y a les fraises et les pommes de l'île d'Orléans, mais sans Félix Leclerc, c'est autre chose.
Mais c'est un phénomène qui est quand même peu étudié, Guy, n'est-ce pas? Moi, en fouillant, j'ai trouvé une seule étude là, qui s'est penchée là-dessus. Et ça fait ressortir plusieurs différentes choses, mais entre autres, OK, il peut y avoir un artiste, on pense à Fred Pellerin, qui a l'idée, qui a un talent pour faire développer sa municipalité, mais ça va prendre d'autres ingrédients. Ça prend, entre autres, l'appui des autorités municipales. Il faut que le village embarque. Tu peux bien avoir une très bonne idée pour faire quelque chose de le fun, un festival à ta place, mais il faut que le village embarque, commencer par le maire, les conseillers, puis la population embarque. Et là, à ce moment-là, je pense que ça crée une autre dynamique. En plus d'avoir peut-être une source d'activité, des gens qui viennent, qui vont consommer, qui vont au restaurant, ça crée une cohésion sociale dans le village.
Exactement, c'est ça. D'abord et avant tout, c'est ça, c'est au niveau des citoyens, c'est de se créer un effet d'appartenance. Justement, comme les gens de cette élite de Caxton, je veux dire, ça a créé un lien qui est fort et qui est pas défaisable.
Ouais, parfois, il y a directement un lien avec le milieu agricole. Quand on fait soit une exposition agricole, justement, en lien avec l'événement, ou encore tout simplement des événements qui sont rattachés à la terre. On pense, entre autres, du côté de Louisville, le Festival de la galette, par exemple. Tu sais que c'est raccroché au produit terroir.
On parle de l'art.
Alors, tout à fait, Michel, moi, je voudrais bien insister sur ce point-là, parce qu'il y a effectivement une culture des activités culturelles qui viennent du fait des artistes qui se sont installés en milieu rural et ça joue effectivement un grand rôle. Et les villages en question peuvent être fiers effectivement que ces artistes aient choisi d'être chez eux. Mais il y a aussi la culture qui émane du village lui-même, qui émane des traditions qui étaient souvent de nature agricole. On sait que nos anciennes séries télévisées, en fait, elles étaient le produit de la culture rurale à l'époque.
Les belles histoires des pays d'en haut.
Le temps d'une paix.
Le temps d'une paix.
Entre chien et loup.
La soirée canadienne, ça soignait pas à peu près, ça.
Mais tout à fait. On a un peu oublié que, en fait, notre télévision, elle s'est développée sur des séries qui traduisaient, qui exprimaient le milieu rural. Alors, et ça avait un peu disparu. Aujourd'hui, je pense que ça renaît. Alors, avec un certain nombre de risques. Lorsqu'on veut mettre en avant la culture pour attirer les touristes, il y a toujours un risque de folklorisation.
Oui, mais Guy, c'est très vrai ce que vous dites. Il y a une culture qui a un côté terroir très fort, mais je pense que de plus en plus, on assiste aussi à l'avènement de la culture avec un grand C, de l'art avec un grand A, dans les milieux ruraux. J'ai ici quelques exemples. Récemment, dans Portneuf, Michel, tu connais bien ça.
Oui, on connaît bien Portneuf.
Il y avait la Biennale du Lin. C'est un événement, surtout de la sculpture, de la peinture, qui a lieu à Grondines, à Deschambault, dans Portneuf. Mais moi, je suis allé là, puis je vous dis, Montréal aurait aimé avoir un événement de ce niveau-là. Ce sont des artistes de différents pays, Portugal, États-Unis, Angleterre, qui ont créé des œuvres vraiment remarquables à partir du lin. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très haut niveau, au niveau culturel, au niveau même international, voudrais dire.
Et on commence à voir dans certains villages québécois, et il va de soi que, bon, la pénurie de main-d'œuvre y est pour quelque chose, c'est que là, on a des entreprises locales, parfois des entreprises du monde agricole. Je pense aussi à la fraisière Fauché, justement, dans Portneuf, où il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont là, qui, à un moment donné, on se regroupe et on crée des activités avec la population pour faire connaître ces travailleurs étrangers-là faire des échanges culturels. Ça se fait dans Portneuf et je sais que ça se fait également dans le secteur de Montmagny, de la Côte-du-Sud, où on va créer des activités avec les travailleurs étrangers, les communautés qui nous visitent ou qui viennent s'installer chez nous. Comme nous, on a dans le milieu hospitalier également, dans Portneuf, des gens de l'extérieur qui viennent se joindre et on crée des journées spécialement pour eux, pour échanger culturellement entre la culture québécoise et la culture de ces gens qui arrivent chez nous.
Écoute, c'est vraiment intéressant. Mais moi, je vais t'en donner un autre exemple, encore dans Portneuf, puis ça m'a vraiment impressionné. Saint-Uribe, je ne suis pas sûr que beaucoup de nos éditeurs qui savent où est situé Saint-Uribe.
Bien, il est sur Portneuf, oui.
C'est un beau village en haut de Portneuf. Bien, imaginez-vous que cet été, moi, je suis passé par hasard, puis là, j'ai dit, ah oui, ils ont une très belle église, mais cet été, dans l'église, il y a eu une exposition des œuvres de Riopel à Saint-Uribe. Alors, écoutez, il y a un concours de circonstances. Il y avait un citoyen de l'endroit qui a désiré garder l'animal, mais qui était un grand collectionneur de Riopel. Il a rencontré le maire, il a rencontré les marguilliers, tout le monde. C'est ça, on voit là, la dynamique du village. Lui, tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Mais le village a embarqué, le maire a embarqué, le curé a embarqué. Et l'église, pendant tout l'été, de l'église de Saint-Uribe, est devenue un lieu d'exposition des œuvres de Riopel. Et ils ont eu 5000 visiteurs à Saint-Uribe. Alors, ça donne un exemple du potentiel de la culture. Ouais, comme...
Je ne sais pas si c'est le curé qui a embarqué, par exemple, là, parce que ça devait être malheureusement encore une de nos églises dans Portneuf qui est un peu laissée à elle-même.
Ah, bon, écoutez,
et c'était l'occasion de la revitaliser.
Alors, ça montre un autre exemple.
Simon, c'est d'autant plus important de relever des exemples comme ça, parce que dans un certain nombre de cas, il y a, comme on l'a dit, des artistes qui se sont installés en milieu rural, mais souvent, ça pouvait être dans des régions qui avaient déjà des attraits touristiques de par leur configuration géographique. On pense, on évoquait tout à l'heure Baie-Saint-Paul, toute la région de Charlevoix. L'étude, une des rares études qui a été faite sur la contribution de la culture au développement, ça a été fait par Ariane Fortin de l'UQAC, et elle intéressé à la MRC des fjords du Saguenay. Et là aussi, on a des attraits géographiques qui attirent déjà des touristes. Mais dans les exemples là que vous venez de mentionner, on ne peut pas dire Saint-Raymond de Portneuf, etc. Il n'y avait pas nécessairement d'attrait géographique tout particulier. C'est vraiment une marche.
Mais mon cher Guy, je m'excuse, mais Portneuf, c'est très beau.
Oui, Saint-Raymond,
mais non, mais
oui,
je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas le rocher percé là, qui attirerait là, vraiment. Mais il y a beaucoup de dynamisme.
Mais il y a la vallée du Bras-du-Nord.
Ah oui,
il y a la vallée
du
Bras-du-Nord. On a de merveilleux sentiers pédestres également à Saint-Raymond.
Mais Michel, Guy, oui. Je pense que c'est un beau sujet. Nous, à notre émission, dans les prochaines semaines, je pense qu'on va revenir assez souvent en ayant fouillé un peu.
Sur le volet culturel.
On va trouver des exemples.
Je m'excuse, Simon, je vais t'interrompre. On va faire une pause. On va revenir au retour de la pause. On va peut-être regarder et parler un peu plus... Pour faire des événements culturels comme ça ou impliquer le monde rural dans ces activités-là, c'est quoi les appuis qu'on devrait avoir, les ressources qu'on devrait trouver dans nos collectivités pour pouvoir aller dans ce genre d'événements-là? On fait une pause et on revient.
D'accord.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Poisson et vendange ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Et nous voilà de retour. Je vous rappelle que vous écoutez La Quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Izzy Lévesque. Aujourd'hui, on est avec les gens de l'Institut, Simon Bégin, Guy Lebailleul, et on parle de la culture en région. Simon, on a mis des activités tantôt. On a parlé, Fred Pellerin à Saint-Élie de Claston. Il y a le Festival de la chanson à Petite-Vallée. On pourrait dire Granby aussi. On a parlé de la biennale, va finir par l'avoir, du Lin à Deschambault-Grondines. On pourrait parler de la Maison Plamondon à Saint-Raymond facilement. Riopel à Saint-Urbib. Il y avait des activités, nous aussi, dans notre secteur à Rivière-à-Pierre dans les dernières semaines. Il y a Friche à Victoriaville. Je pense au Musée du Bas-Saint-Laurent dans le coin de Rivière-du-Loup qu'en fin de semaine aussi pour les Journées de la culture, il y avait quelque chose. Sauf que on voit que l'apport culturel est important. Ça peut aider au développement des régions, mais comment il faudrait peut-être réfléchir comment on attache tout ça, ces événements-là?
Oui, en fait, de tout temps, il y a eu de la culture en campagne. Il ne faut pas imaginer que ça vient d'arriver, là. Il y avait d'abord les expos agricoles, il y avait quand même...
Il y avait le Père Gédéon aussi.
Ah oui? Non, mais il y avait toutes sortes de festivals. Oui. Il n'y avait pas un village qui n'avait pas son événement pour créer de l'animation. Mais disons que ça a pris peut-être une tournure un peu plus, appelons ça, « artiste professionnel », entre guillemets, dans les dernières années. Et pour soutenir ça, ben, il y a eu, faut le dire, il y a eu quand même, du côté gouvernemental, des initiatives. Entre autres... On a vu au cours des dernières années les politiques gouvernementales aller dans le sens de conférer plus de pouvoir et de responsabilité aux MRC, les municipalités régionales de comté. Et, entre autres, parmi les différents outils qui ont été créés pour permettre ce développement-là, mettre les autorités régionales à l'avant-plan du développement, il y a eu le développement d'ententes culturelles, des ententes de développement culturel au niveau de chaque MRC. Donc, le ministère des Affaires culturelles, au niveau régional, au niveau plus local, s'assoyait avec les autorités. Puis, bon, on a des enveloppes, on a des budgets pour soutenir les initiatives culturelles du milieu. Faites-nous des propositions. Alors, ça a été vraiment un outil important. Maintenant, c'est sûr que les ressources seront toujours limitées. Il n'y aura pas nécessairement... les mêmes budgets qu'en ville, mais quand même. Ça a été ça, un outil important. Mais je pense que la clé la plus importante, puis Guy, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est les gens du milieu. Il faut que les gens du milieu embarquent. C'est ça la recette, l'ingrédient essentiel.
Oui, mais je pense que c'est Guy, justement, tout à l'heure, qui citait l'étude d'Ariane Fortin, de l'UQAC, la cohésion sociale, l'attractivité, le développement économique, la création d'emplois. Je pense que c'est ça que vous faisiez référence, Guy, tout à l'heure.
Tout à fait. Je pense que, ben, d'abord parce que, indépendamment de savoir si la culture peut contribuer au développement économique, la contribution de la culture est d'abord un facteur de cohésion sociale. C'est-à-dire que c'est qu'on reconnaît une entité régionale, c'est qu'on voit que les gens partagent les mêmes valeurs et les mêmes références culturelles. Quand on leur parle de quelque chose qui est produit localement, ça leur évoque quelque chose. Alors, ça peut être des produits de leur propre histoire, de l'activité agricole avec ses particularités régionales. Ça peut être l'existence de recettes de cuisine, et on va parler de culture gastronomique. Quelquefois, c'est aussi, et ça contribue à la cohésion sociale, ça peut être la confrontation d'éléments culturels différents. Je ne sais pas si vous avez vu l'occasion de voir certaines des émissions qui s'appelait Immigrants de souche, qui mettait en scène des immigrants qui s'étaient installés en zone rurale depuis un certain temps et qui s'y étaient implantés. Et quelquefois, ça donne cette coexistence de références culturelles, ça donne l'occasion aux gens de se réapproprier leur propre culture par comparaison à celle qui est apportée par les immigrants. Et ça peut donner lieu à des événements dans lesquels il y a par exemple des fêtes où on fait coexister des traditions locales et puis des traditions apportées par ailleurs. Donc moi je pense que c'est, avant même d'être un élément de développement économique, c'est un grand facteur de cohésion sociale et qui fait qu'une région va continuer à exister en tant que région, un village exister en tant que village, c'est très important à mon avis.
Lorsqu'on parle des arts en général là, qui n'ont pas nécessairement de lien avec le terroir, bon, on parle la peinture, on parle le chant, on a plusieurs exemples à donner. Bon, le chant, on a parlé tout à l'heure de Granby, de Petite-Vallée, de Claston. Au niveau des arts, plus comme la peinture, oui, tout ça, on peut penser à l'île d'Orléans, à Baie-Saint-Paul, mais ce que je veux dire, c'est que il faut inclure dans tout ça, et on le dit depuis tout à l'heure, les événements, les foires foraines qui souvent partent du milieu agricole pour faire connaître des produits locaux, régionaux. On n'a qu'à penser que ce soit les festivals de sirop d'érable ou la galette, comme je parlais tout à l'heure à Louisville, des événements qui ont, à Neuville, les fêtes gourmandes, qui sont là pour vraiment mettre en valeur le terroir local en lien avec l'agriculture.
Oui, c'est là depuis longtemps et ça existera toujours et c'est très important. Cette espèce de relation entre le passé, notre patrimoine et la modernité. Alors, je pense que dans Portneuf, à Donnacona, vous avez eu une très grosse exposition agricole où on a pu entendre des vedettes, mais aussi toute la dynamisme locale est reflétée là, commerciale, industrielle et culturelle.
Oui, c'était celle-là de Saint-Marc-des-Carrières.
Oh, excusez-moi.
Il y en a une à Donnacona, mais pas agricole.
Mais je pense en plus que beaucoup d'urbains sont en train de redécouvrir ce type de culture. Et finalement, ça fait partie de notre histoire, donc en fait de notre culture, à un sens plus large. Effectivement, et du coup, indirectement, ça peut contribuer au développement économique parce qu'ils vont chercher à aller assister à ce type de fête, ce type de foire. Donc, ils vont non seulement les gens du coin, mais aussi des gens de plus loin.
Oui, Guy, c'est vrai, Michel, vous avez raison, c'est là, ça existe, c'est un corps important de la culture en milieu rural. Mais moi, je voudrais souligner qu'il y a aussi actuellement une émergence d'événements culturels de pointe.
Oui, qui sont pas nécessairement reliés au terroir.
Non.
Oui,
c'est alors, ça. Un exemple, je sais que Saint-Pie-de-Guire, c'est pas très connu non plus, c'est dans la région de Drummondville. Il y a là, depuis une vingtaine d'années, une forêt sculptée. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça à un moment donné, si vous passez par là. On se promène dans un vaste terrain boisé, magnifique, et autour de nous, il y a peut-être 25 à 30 sculptures monumentales, mais avec des artistes de partout, oui. Des grandes vedettes de l'art, de la sculpture, internationales, qui sont venus là, qui ont eu des résidences, qui ont créé et qui ont laissé là des œuvres monumentales. Récemment, à Victoriaville, il y avait un événement, Guy, ça va nous intéresser particulièrement, c'est en lien un peu avec la refonte de la loi de protection du secteur agricole. C'est un événement qui s'appelait Friche. Alors, il y a eu des conférences sur le phénomène de l'enfrichement de nos belles terres agricoles qui sont laissées à l'abandon, mais il y avait là aussi des artistes, et pas n'importe quel, des grands artistes, qui ont créé ce qu'on appelle du land art. Ils sont allés dans un champ en friche, avec une faux, avec, je sais pas, j'ai pas vu l'œuvre, mais ils ont créé des œuvres dans des terres agricoles en friche pour attirer l'attention du prof sur le phénomène de l'enfrichement. Le désastre que ça peut représenter, mais c'est l'art. L'art, à ce moment-là, servait comme moyen de sensibilisation à un problème et à aussi la solution qu'on essaie de trouver avec la refonte de la loi de protection du territoire. Alors là, on voit que l'art s'insère pas seulement dans le développement économique, mais dans le développement aussi social, politique de nos sociétés.
Je pense que
sur un plan plus anecdotique, on pourrait d'ailleurs même aussi dire que l'art peut s'inviter dans un champ de maïs. Dieu sait si au Québec, il y en a beaucoup, mais vous avez probablement déjà vu des reproductions de ces fresques que des agriculteurs décident de confiner à l'intérieur de leur champ de maïs, parce que souvent... une plante assez grande, et puis en supprimant un certain nombre d'épis pour faire des représentations tout à fait esthétiques.
Oui, oui, alors on voit que l'art s'invite en campagne, comme l'agriculture s'invite en ville, avec l'agriculture urbaine qui se développe de plus en plus. Exact. Mais c'est très bon pour notre société, ça.
Non, je pense qu'il y a un échange qui est plus que positive, et je pense que ce qu'on doit retenir de l'émission aujourd'hui, on aura l'occasion de reparler d'art, c'est jusqu'à quel point, justement, le milieu culturel rural est en développement à travers des activités qui sont pas nécessairement toujours du terroir, qui parfois le sont, mais que c'est un apport de plus en plus présent dans la culture québécoise en général.
Un sujet à explorer.
Oui. Puis sûrement, peut-être avoir des invités qui pourront nous faire découvrir des choses qui des fois, on n'imagine pas une fête ou un événement. Ben écoutez, merci beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, Guy de Bailleul. Merci, Simon Bégin. Merci, Izzy. Et voilà, ça complète cette émission de La Quotidienne. On vous dit à la prochaine.